Un regard neuf sur l'actualité. Une vision nouvelle des enjeux de société. Cube Radio.
Cube Radio. Cube Radio.
Vous écoutez Philippe Vincent Choisy.
On célébrait les 25 ans du réseau des CPE, des centres de la petite enfance, qui a été créé par le gouvernement de M. Bouchard et la ministre Pauline Marois en 1997. 25 ans plus tard, on en est où? Il y en a qui vont dire on est encore loin d'avoir un vrai réseau pour tout le monde. On a plus un réseau à 3-4 vitesses. On a eu des témoignages durant la fin de semaine de femmes, de familles, de mères qui disaient « Je dois quitter mon emploi, je trouve pas de place, c'est encore difficile. » Mathieu Lacombe, ministre de la Famille, qui a signé une lettre ouverte pour dire que ce réseau est encore en construction, est avec nous. Monsieur Lacombe, bonjour.
Bonjour.
Avez-vous une date, là, parce que je voyais que vous vouliez créer 37 000 places là, d'ici 2025. Est-ce que c'est 2025, c'est la date qu'il faut qu'on ait en tête pour le fait que ce réseau des CPE va être complet?
Ben, c'est l'objectif qu'on s'est donné, oui, avec ces 37 000 places-là, d'être capable d'offrir une place à chaque tout petit au Québec. Je voudrais que le défi qu'on a, c'est toujours de co-construire ça, parce que contrairement à la santé ou à l'éducation, par exemple, deux grands réseaux qui sont gérés par l'État, ben, les centres de la petite enfance, les garderies sont plutôt le fait d'OBNL sur le terrain, non CPE, d'entreprises et de travailleurs autonomes. Donc, on doit aussi travailler avec eux. Donc, par exemple, dans un contexte de crise comme celui qu'on connaît, nos gestionnaires actuellement nous disent que c'est difficile de gérer des projets de construction en même temps que gérer la crise sanitaire, puis on les comprend. Donc, on devra peut-être s'ajuster, mais...
Mais pourriez-vous rapatrier ces pouvoirs-là? Pourriez-vous, est-ce qu'on pourrait changer la nature du réseau pour s'assurer que ça fonctionne?
Bien, c'est une question qu'on nous pose parfois. Il y a des gens qui nous suggèrent ça. Il y en a qui sont opposés à ça.
Mais vous, êtes-vous d'accord?
Bien, je pense que ça pourrait avoir des bénéfices. On pourrait en retirer des bénéfices. Par contre, on perdrait aussi du même coup ce qui était l'essence là, du réseau lorsqu'il a été imaginé par Lucien Bouchard et Pauline Marois.
Oui, mais ça évolue, ça, en 25 ans. Il y a des choses qui changent, là.
Ben, il y a des choses qui changent, c'est clair, mais ça, on parle vraiment de quelque chose qui est central dans l'ADN du réseau.
Donc, vous fermez la porte ou la porte est ouverte à rapatrier?
Ben, pour l'instant, la porte, elle est fermée parce que sinon, bien évidemment, c'est un changement majeur. Je l'aurais annoncé dans le grand chantier pour les familles que j'ai présenté, mais ce serait tellement un changement de philosophie important que tout ça se préparerait longtemps d'avance et il faudrait aussi rallier le réseau. Et je pense qu'actuellement, la priorité, c'est vraiment d'être capable d'offrir ces places-là le plus rapidement possible. Donc, on travaille avec ce qu'on a actuellement. On va faire beaucoup de modifications là, avec le projet de loi 1. Les gens sur le terrain, les chroniqueurs, les journalistes ont consenti que c'était probablement la plus grosse réforme depuis Pauline Marois en 1997. Donc, on va changer des choses, mais on ne touchera pas à l'ADN du réseau.
Les gens de ma place au travail ont rapporté plusieurs témoignages au cours des derniers jours. Là, je vais vous en lire quelques-uns. J'ai dû quitter mon emploi. Ma garderie me coûte plus cher que mon hypothèque. J'ai abandonné le rêve d'avoir un deuxième enfant. Je voulais fonder une famille, mais c'est beaucoup trop. Il y a beaucoup trop de détresse dans les familles autour de moi. De plus en plus, on a des parents qui savent pas nécessairement vers quel sein se tourner. Comment ça fonctionne, ce réseau-là? Ils se sentent complètement pris, n'ont pas de place pour envoyer leur enfant, ne peuvent pas retourner au travail. On parle d'éducatrices, on parle d'infirmières, d'enseignants, dans un monde de pénurie de main-d'œuvre. On nous dit, on vante ce réseau-là à travers le pays, mais quand on le regarde sous la loupe ici, ça craque presque partout. Qu'est-ce que vous dites à ces parents-là qui se disent, ça va vraiment pas assez vite, là, j'ai des besoins, moi, maintenant, je paye des impôts, moi, maintenant, et je n'ai pas les services auxquels je pourrais m'attendre maintenant?
Ben, je leur dis qu'on les a entendus. Ouais. Et c'est pour ça qu'on a déposé notre grand chantier pour les familles. Mais en même temps, je vous donne, c'est peut-être un exemple un peu plus simpliste, mais c'est sensiblement la même chose. Il faut laisser le temps aux choses de se construire. C'est comme si vous dites, ben mon appartement a passé au feu et là, je veux une nouvelle maison demain matin. Ben il faut que la maison se construise et vous avez beau avoir la plus belle histoire, l'histoire la plus difficile, avoir autant de moyens que vous le souhaitez, il y a du temps qui est nécessaire. Et une maison, ça se construit pas en une semaine. Il y a des mesures, par contre, qui peuvent être prises en attendant. Et nous, on explore tout ce qu'on peut faire, mais pour que chaque enfant puisse avoir une place, ça prend du travail. Ce travail-là n'a pas été fait dans les 15 dernières années. Le développement a été mis sur pause.
Incluant les trois dernières?
Non, pas incluant les trois dernières, parce que ce qu'on a déposé et ce qu'on a fait, c'est reconnu comme étant une avancée historique.
Non, je sais, mais ça c'est quand même arrivé loin dans le mandat. Là.
Ben, pour ceux qui ont fait de la politique ou qui l'observent, là, puis vous faites partie de ces gens-là, vous savez que présenter des grands chantiers comme ceux-là, d'être capable d'aller chercher tout l'argent que ça demande, d'être capable aussi de le faire en consultant les gens qui sont dans le réseau, donc en ne faisant pas, comme par exemple d'autres ministres ont fait avec des réformes pour lesquelles ils se sont fait critiquer parce qu'ils l'ont fait tout seul, ça prend quand même du temps, tout en gérant une pandémie, je vous le rappelle. Là. On parle pas beaucoup de la pandémie dans les services de garde parce que ça va relativement bien.
Ah
mais
oui?
Il faut comprendre qu'on a fait tout ça en même temps. Donc, c'est clair que moi, je pense que avec le réseau, on a fait un bon travail.
On a reçu, nous, des courriels de services de garde qui comprennent plus rien. Là. Il y a des cas de COVID, on sait plus qui isole les camps, combien de temps. Ils reçoivent en 24 heures deux avis différents de la santé publique. Faut isoler les cas contacts, faut pas les isoler 5 jours, pas 5 jours. Des tests rapides, ils en ont pas reçu, donc difficile d'en donner aux enfants. Oui, vous me surprenez là, en me disant que ça va bien dans les services de garde. Là.
En fait, je vous dis que depuis le début de la pandémie, donc depuis mars 2020, si vous regardez tout ce qu'on a fait, ça a relativement bien été.
Mais dans les dernières semaines,
Dans les dernières semaines, vous avez raison qu'il y a eu de la confusion, notamment pendant le temps des fêtes, où les recommandations de la santé publique ont changé à quelques reprises. Et ça, j'ai déjà admis publiquement. Je comprends que pour les gens du réseau, ça a été difficile à suivre. Maintenant, je pense qu'on est bien revenu en selle, que ces consignes-là sont plus claires.
Mais c'est quoi? C'est 5 jours d'isolement pour un enfant qui a la COVID ou qui a des symptômes s'apparentant à la COVID, mais juste s'il a été en contact à la maison ou même s'il a été en contact avec un cas à la garderie? Ben,
Tout dépend des symptômes. Tout dépend aussi de s'il y a eu un contact direct, si c'est à la maison, si c'est au CPE, à la garderie. Et c'est pour ça qu'on a fourni, et c'est sur les réseaux sociaux, c'est sur le site web du gouvernement, les CPE les ont reçus, on transmet ça aux parents, un arbre décisionnel, c'est-à-dire, ben voici, est-ce que votre enfant a tel ou tel symptôme? Oui, non, ben voici ce que vous devez faire. Puis là, il y a tout un chemin à suivre. Et j'ai vu, là, il y a des gens qui disent c'est compliqué. C'est vrai que c'est compliqué, et parce que c'est une maladie qui est compliquée dans laquelle il y a plein de cas de figure. Donc, si on veut s'assurer d'avoir la bonne réponse à fournir aux parents pour prévoir tous les cas, puis ça donne un tableau qui peut avoir l'air compliqué, mais quand vous passez à travers, vous avez la réponse qu'il vous faut.
Mais comment vous expliquez qu'il y a des propriétaires de garderie qui n'aiment même pas les réponses à donner aux parents?
Ben, actuellement, les propriétaires sont supposés avoir ces réponses-là. Les gestionnaires aussi, s'il y en a qui ne les ont pas.
Mais ils sont supposés avoir des tests, puis ils n'en ont pas non plus.
Ben, encore une fois, les tests rapides, là, moi, ce qu'on me dit, c'est que tous les six, les SUS les ont reçus et on a demandé au CPE d'aller se les procurer, de le demander aux six et aux SUS. Et à beaucoup d'endroits, moi, comme parent, par exemple, là, j'ai reçu le mien. Il y a beaucoup de gens que je connais autour de moi qui ont reçu les leurs. Il y a peut-être des CPE où c'est plus difficile, si c'est le cas.
Mais je parle des garderies, là. Je parle pas juste des CPE. Là. Il y a des garderies en milieu familial, des garderies non subventionnées, oui. Il y a tout ça. Là. Les parents sont dans tout ça.
Fait,
là.
Oui.
C'est compliqué oui, là, dans tout ça. Là. Il y avait la docteure Amélie Boisclair qui écrivait là, j'essaie de comprendre comment on peut passer mentalement de on fait tout pour que nos proches n'attrapent pas la COVID à c'est correct d'envoyer mes enfants en garderie où il y a des éclosions, il n'y a pas de suivi de contact, il y a peu de tests et ils sont pas vaccinés.
Je comprends, mais en même temps, je pense pas que c'est à moi comme ministre de vous dire si scientifiquement c'est la bonne ou la mauvaise chose. Vous savez, non, mais on nous dit il faut suivre la science, suivons la science.
Mais c'est parce que la science est difficile à suivre parce qu'elle est mal communiquée en ce moment. Vous pouvez quand même pas me dire que c'est bien communiqué la science et qu'elle est limpide, alors que je connais personne qui trouve ça clair là.
Mais là, c'est qu'on on était sur ce sujet-là, on est allé sur les tests rapides. Là, moi, ce que je vous dis, on peut y revenir. Je vous dis, je comprends qu'il y a eu de la confusion.
Mais est-ce qu'il y en a encore? Parce que vous me dites qu'il n'y en a plus, alors que j'ai l'impression, à écouter beaucoup de parents, qu'il y en a encore énormément de confusion.
Ben, il y a une différence entre la confusion et entre gérer des processus qui peuvent être compliqués. De la confusion, là, dans la communication, il y en a eu pendant le temps des fêtes.
Mais il n'y en a plus, selon vous.
Je ne prendrai pas. Ben, je pense que ça s'est beaucoup amélioré. Est-ce que c'est parfait? Non. Mais je pense pas qu'on peut parler de confusion maintenant. Il n'y a pas de données contradictoires. Il y a peut-être encore certaines directions régionales de santé publique qui ont des consignes qui diffèrent un peu. Et ça, nous, à Québec, avec la direction générale de la santé publique, on travaille fort avec elle pour qu'elles uniformisent là, les consignes. Parce que ça peut créer de la confusion.
Ouais.
Mais là, la confusion, je pense qu'on n'en a plus. Est-ce que c'est difficile à gérer comme information? Oui, parce qu'encore une fois, c'est difficile. Moi, comme parent, le matin, je le vis aussi quand je dois aller conduire mon enfant au CPE, un nez qui coule, bon, mal de gorge, est-ce que ça rentre là-dedans? Je dois moi-même le regarder le graphique parce que c'est compliqué. Puis c'est normal que ce le soit parce que il y a tellement de cas de figure qu'il faut tous les prévoir. Mais ouais. Je pense que dans les circonstances, on fait de notre mieux.
Est-ce que la ventilation est adéquate dans les garderies?
Oui, c'est une question qu'on s'est posée. C'est une question qu'on a aussi validée. Il faut comprendre que dans nos CPE, dans nos garderies, il y a les milieux familiaux, évidemment, qui sont des résidences privées. Je vous le disais, ce sont des travailleurs autonomes. On ne parle pas d'un réseau qui est géré par l'État non ouais. plus. On parle d'OBNL qui doivent s'assurer de ça parce qu'ultimement, c'est pas la responsabilité du gouvernement. Ce sont pas des immeubles gouvernementaux. Mais le parc aussi est beaucoup plus récent que ce qu'on retrouve notamment dans les écoles. C'est un réseau qui est jeune. Donc, de ce côté-là, on me dit qu'on a
pour pas les CPE, ça va. Les CPE, exactement. Les garderies non subventionnées, est-ce qu'il y a des tests qui sont faits?
Dans les CPE, dans les garderies, ce qu'on demande, la norme, évidemment, les CPE, les garderies doivent répondre aux normes qui sont édictées par la Régie du bâtiment, notamment. Puis, ce sont des organismes indépendants qui doivent s'assurer du respect de ça. Contrairement, par exemple, au réseau scolaire où on parle d'installations qui sont gouvernementales. Donc, c'est un peu la même chose pour les restaurants. C'est un peu la même chose pour beaucoup d'entreprises, d'organismes communautaires qui sont financés aussi par le gouvernement.
Mais il y a des tests de qualité de l'air qui sont faits.
Ben, probablement que oui. Il se peut bien que dans d'autres CPE, il n'y en ait pas eu de fait, mais évidemment que tous les CPE, les garderies doivent s'assurer, comme les organismes communautaires, comme les restaurants, comme les entreprises, que ce qu'ils offrent, c'est une qualité de l'air qui est sécuritaire.
Une dernière question sur ce qu'on a appris durant la fin de semaine. On vous a vu réagir à ça. Comment ça se fait qu'une garderie puisse être dans une maison où il y a un proche associé aux Hells Angels ou un pédophile? On a vu ça dans le Journal de Montréal durant la fin de semaine. Ouais. Je pense qu'il y a beaucoup de parents qui s'inquiètent des suivis, des tests qui sont faits pour assurer qu'on donne un permis de garderie à quelqu'un.
Ben, c'est une erreur. C'est une erreur qui n'aurait pas dû arriver. Bien honnêtement, là,
qu'est-ce qu'on va faire pour qu'elle n'arrive plus, ce genre d'erreur-là?
Ben, pour que les gens qui nous écoutent comprennent bien ce qui s'est passé, là, c'est la personne en question, offrait des services de garde sans avoir de permis. Ça, c'est permis actuellement par la loi. Moi, je trouve que ça n'a pas de bon sens. Puis le projet de loi que j'ai déposé va régler ça. Mais la personne actuellement avait le droit de le faire sans permis. Il y a eu une plainte. Et donc, à la suite de la plainte, on s'est déplacé pour aller s'assurer que la personne respectait les critères minimaux qui sont prescrits par la loi, même si elle n'a pas de permis. On s'est aperçu qu'elle n'avait pas d'absence d'empêchement. Donc, évidemment, on a agi. Et à la suite de ça, elle nous a fourni les documents qu'elle a reçus du service de police pour elle, son conjoint. Et à ce moment-là, évidemment, on a constaté qu'il y avait un problème. On a demandé la fermeture parce qu'on a vu les antécédents. Et par la suite, elle a fait appel. Et donc, à la base, la décision était bonne. Par contre, en faisant appel, c'est tombé sur le bureau d'une gestionnaire qui pouvait, à son niveau, sans demander la permission à la haute direction du ministère, renverser la décision. Et la gestionnaire a pris la décision de renverser ça. Et évidemment, c'est une erreur. Elle n'aurait pas dû faire ça.
Est-ce que cette gestionnaire-là travaille toujours là?
La gestionnaire en question travaille au ministère, oui, dans d'autres fonctions. Elle n'occupe plus les fonctions qu'elle occupait à ce moment-là.
Bon.
Donc, c'est une erreur qui est regrettable. Là. C'est sûr que ça a l'air qu'on n'est pas heureux de ça. Mais on a pris les mesures. Et donc, le projet de loi que j'ai déposé va régler une partie de ça. Mais entre-temps, on a aussi décidé de réviser tous les cas similaires. Là. Mais je veux pas dire les cas similaires dans le sens où les mêmes erreurs, parce que ça veut pas dire qu'il y a eu des erreurs, mais les cas où il y aurait pu avoir des décisions comme celle-là de rendu pour nous assurer que c'est pas le cas puis que les décisions ont été rendues de la bonne façon. Puis on va s'assurer que maintenant les gestionnaires de premier niveau là, ne puissent plus prendre ce genre de décision-là non plus.
Mathieu Lacombe, merci d'avoir fait le tour de la question. Je pense qu'il y a des parents qui vont y voir un peu plus clair ce matin et bonne rentrée à vous. Bon retour à la garderie après avoir fait l'arbre décisionnel pour être sûr que vous puissiez y aller.
On est tous dans le même bateau. Merci beaucoup.
Bonne journée, M. Lacombe.
Au revoir.